R22, tout mon
R22, antenne, tout
Radio Brouhaha.
Et maintenant, quoi de plus extra qu'une radio? La radio Brouhaha.
Alors Lionel, je te laisse fouetter ce catwalk littéraire avec votre chers invités et surtout passez un très bon moment. Merci d'être avec nous et très bonne séance de radio à vous.
Merci Romain et merci au service de la parole du Centre Pompidou de nous permettre de revenir à Radio Brouhaha presque chaque année pour le festival extra auquel on est heureux d'être associé et même fier d'être associé. Et en fait, je ne sais même pas pourquoi on n'avait jamais abordé la question du cabaret dans Radio Brouhaha. On ne l'a pas fait encore. Donc là, on s'est dit, on va faire 3 jours. Alors, on nous a proposé 3 jours, on va faire les 3 jours. On aurait peut-être même dû commencer par ça, puisque au fond, pour vous dire, l'idée de Brouhaha, c'est de distinguer d'un côté la littérature silence, qui est juste à côté, même si elle est très peu silencieuse, c'est la littérature qui est dans les livres, et quand on lit un livre, le corps est un peu immobile et silencieux. Donc distinguer une littérature silence qui discipline les corps, les réduit à l'immobilité, et une littérature brouhaha qui s'exprime sur scène, dans la rue, en collectif, en dansant ou en chantant. Donc dans ce cas, le cabaret est une littérature brouhaha, un peu comme les autres et même peut-être un peu plus que les autres. C'est donc une littérature indisciplinée où les corps et les êtres sont en présence, parlent, chantent, discourent, poétisent, danse, crée des personnages, et c'est ce que nous allons voir durant ces 3 premiers jours. Avec aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 4 invités, Camille Paillet, qui est historienne, Céline Duchesnet, qui est autrice, Rim Battal, qui est aussi autrice, poétesse, et Macha Kins, qui est artiste, et qui nous parlera de sa pratique du cabaret. Je vous présenterai un peu plus en détail lorsque j'en viendrai à chacune de vos interventions. Donc on va commencer un peu pour faire un peu d'histoire avec Camille Paillet, qui est historienne des spectacles, qui enseigne à Paris 1 et à Paris 8, et qui s'est beaucoup intéressée au café-concert, au music-hall, à cette période de la fin du 19e. Donc voilà, Camille, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu l'histoire du cabaret, notamment du cabaret qu'on dit artistique, et peut-être même du cabaret populaire, notamment dans cette galaxie de spectacles qui se développe au 19e siècle, le café-concert, le music-hall, etc., etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette histoire?
Alors, je pense que c'est important de commencer par dire que les origines du cabaret dit artistique se pensent en fait en dehors du champ artistique et littéraire, puisque les origines du cabaret, c'est vraiment les espaces des débits de boissons, avec une vaste nomenclature, les bistrots, boui-boui, caboulot, guinguette, goguette, etc. C'est effectivement le qualificatif artistique accolé au cabaret, qui est vraiment une affirmation qui vient à la fin du 19e siècle, dans les années 1880, avec le modèle du genre qui est le chat noir, vient vraiment pour se distinguer justement de cet espace du café ordinaire. Donc ça, c'est important, cette marque effectivement de double fonction, d'un lieu de consommation et d'un lieu de spectacle, puisqu'on va d'abord au cabaret pour boire, manger, passer un bon moment, et pas forcément pour être attentif à un spectacle, une proposition artistique. Donc ça, c'est les origines qui vont se transformer au cours du 19e siècle avec l'émergence effectivement d'une industrie du spectacle. Et là, la deuxième moitié du 19e, pour le cas du cabaret français, fait l'objet de beaucoup de bouleversements, de transformations, avec l'émergence d'un des premiers, disons, divertissements de masse de cette société, qu'est le café-concert. Et donc là, on a une multiplication d'établissements de cafés qui commencent à accueillir au sein de ces établissements des artistes, des chansonniers, des musiciens qui venaient beaucoup aussi soit du théâtre boulevard, soit du théâtre forain. Et on va commencer effectivement à voir émerger cet espace vraiment spectaculaire qui se distingue de ses origines du bistrot d'autrefois. Et le cabaret dit artistique et littéraire va émerger à un moment où il y a une transformation aussi avec l'internationalisation du café-concert qui va évoluer vers le music-hall, hein, influencé d'abord par les divertissements britanniques et américains. Et là, effectivement, il va y avoir cette juxtaposition de deux espaces qui vont effectivement s'opposer. Et le chat noir va se positionner contre justement le divertissement commercial que peut représenter le music-hall pour proposer effectivement un espace plus avant-gardiste de contre-culture avec voilà, des poètes, des écrivains, des journalistes qui correspondent vraiment à la sociabilité du chat noir.
D'accord. Et donc le cabaret tel qu'on l'entend dans l'acception commune aujourd'hui, c'est un cabaret qui est indisciplinaire par rapport aux autres pratiques qui elles, ont plutôt une discipline centrale comme la chanson ou la danse. Est-ce que c'est ça le cabaret ?
Alors cette notion d'indiscipline, effectivement, elle a fait l'objet d'une rencontre dernièrement, le mois dernier, sur une scène nationale, donc au manège de Reims, que j'ai organisée avec Jérôme Marin, qui est l'un aussi de vos invités.
Demain. Ouais,
oui. Voilà. Et on a beaucoup travaillé sur cette notion-là d'indiscipline, parce que la plus évidente, effectivement, c'est cette question de la circulation esthétique, hein, de vraiment de la programmation, du genre, du répertoire. D'un matériau composite qui va mêler effectivement à la fois les arts visuels, la littérature et les arts spectaculaires, qui est plutôt mon champ de compétence. Et dans ces arts scéniques, va effectivement circuler du chorégraphique, du théâtre musical, du sketch théâtral, du monologue, du cirque, etc. Donc il y a cette question de l'indiscipline effectivement artistique qui mêle voilà, toutes ces formes d'expression. Et puis il y avait cette notion en fait justement de indiscipline comme quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir, à définir, un refus un peu de faire école, de faire définition, avec cette frontière entre justement l'art et la fête, et aussi des frontières qui mêlent à la fois le champ du divertissement populaire et l'espace plus artistique de l'avant-garde artistique. Donc il y a aussi ce jeu des frontières entre le statut même du cabaret. Et puis, évidemment, il y a la dimension sociale et politique de l'indiscipline, puisque l'histoire de certains établissements, hein, notamment les goguettes, ouvrières, chansonnières, militantes, ont pu avoir aussi un discours politique, critique à l'égard des politiques actuelles de la société. Et puis, pour aujourd'hui, plutôt voilà, une forme de contre-pouvoir, de critique, de déplacement des conventions sociales, notamment celles qui touchent aux questions de genre, hein, qui sont quand même aussi une forme du cabaret contemporain aujourd'hui très importante. Donc voilà, c'est vraiment effectivement cette notion de cabaret indisciplinaire qui fait l'objet aujourd'hui de la scène contemporaine, d'une partie de la scène contemporaine.
Et est-ce qu'une manière aussi de définir ces différentes formes qu'on réunit autour du cabaret, c'est de penser qu'il n'y a pas de mur avec le public, que le public, même si j'ai bien compris, j'y viendrai tout à l'heure dans certaines émissions qu'a produite Céline Duchesnay, qui est à ma droite, qu'au départ, pratiquement, il n'y a pas d'artiste et de distinction entre artiste et public, et presque tout le monde peut prendre la parole, faire un tour de chant ou de danse. Est-ce que c'est ça aussi qui fait la particularité du cabaret, cette non-distinction de la scène et du public ?
Oui, effectivement, enfin, la sortie au cabaret, c'est une expérience qui la distingue d'une sortie théâtrale. En tout cas, à ses origines, par exemple, la question des horaires. Il n'y avait pas d'horaire de début, de fin. On rentre, on sort. Donc, il y a une liberté de circulation des publics qui commence un petit peu plus à se formater aujourd'hui, se normaliser. Mais ce n'est pas la sortie du théâtre. On se dit, on va voir une pièce, en 1h30, on sort. Donc déjà, il y a cette programmation qui est pensée effectivement pour les publics. Et puis effectivement, ce que j'expliquais au début, c'est que on va au cabaret pas forcément pour voir le spectacle. Donc on vient aussi pour se retrouver entre amis. Donc il y a d'autres types d'activités, il y a d'autres intérêts à sortir au cabaret, et notamment toute la dimension festive qui se reproduit aussi aujourd'hui. Il y a toute l'arrivée avant le show à proprement parler, où voilà, on discute, on boit un verre, et où on peut croiser justement des créatures, hein, oui. Donc des personnages qui sont pas voilà, une chimère sur scène, inaccessible, propre à l'illusion théâtrale, mais avec qui on peut parler, on peut boire un verre, le public peut fumer une cigarette à l'entracte avec eux. Donc il y a voilà, c'est des créatures qui sont vivantes et qui sont ouvertes sur la vie, en fait, l'expérience partagée de ce moment cabaret.
Oui, oui, les coulisses sont très souvent aussi dans la salle elle-même. Donc c'est quand même très lié, j'ai été frappé aussi, c'est très lié au débit de boisson sur lesquels vous avez travaillé. On recevra dimanche Lily Bette-Merle qui propose aujourd'hui un cabaret fondé sur la sobriété, sans alcool. Est-ce que ça vous semble imaginable dans cette histoire des cabarets, un cabaret qui ne repose pas sur des perceptions altérées par l'alcool ou toute autre chose ?
Alors c'est vrai que les imaginaires sociaux associés au cabaret, hein, et qui fait aussi l'objet de sa longue dévalorisation, hein, dans l'histoire des arts et des loisirs, est beaucoup lié à ce lieu de boisson, à cette question de l'alcoolémie. Et en tout cas, moi qui travaille un peu quand même sur le 19e siècle, c'est des lieux de débauche, de dépravation, qui détournent les ouvriers des bons loisirs que pourrait représenter la lecture ou le théâtre. Donc il y a vraiment cette association quand même très forte avec l'alcool. Et effectivement, c'est quand même aussi des moments, des expériences qui se passent la nuit. Donc c'est lié aussi à toute l'histoire nocturne, l'histoire des excès, de cette indiscipline qui va avec les plaisirs du corps, de la chair. Donc l'alcool, l'ivresse fait aussi partie, et d'autres substances d'ailleurs, de ce moment cabaret. Donc après, effectivement, il y a, je pense, des règles qui devraient peut-être être mises pour éviter effectivement certains excès, notamment dans ce rapport public-artiste qui est parfois est très mince, et donc peut-être que là c'est quelque chose auquel il faudrait être attentif. Je ne sais pas si on peut aller au cabaret sans boire une bière.
Et est-ce qu'il y a toujours eu une distinction Paris-Province historiquement et aujourd'hui, parce que vous analysez aussi ce qui se fait aujourd'hui, par exemple dans l'épisode dont on parlera tout à l'heure sur le cabaret berlinois, un historien dit que la naissance du cabaret berlinois est liée au bruit de la ville qu'on entend à Berlin, à sa vitesse, à l'expérience de la ville. Est-ce qu'il y a une différence entre Paris-Province historiquement et est-ce qu'elle se retrouve aujourd'hui encore ?
Alors c'est vrai qu'il y a une focalisation sur la capitale française et qui n'est pas propre à la France, hein, mais qu'on retrouve aussi pour les autres pays, qui s'explique par effectivement le capital culturel et symbolique de Paris, notamment sur le plan patrimonial. Et aussi comme un lieu aussi par rapport à la question du tourisme culturel, hein, qui marque vraiment l'histoire du cabaret, et aussi les ouvrages, les travaux sur ces espaces-là sont aussi essentiellement concentrés sur 3-4 salles emblématiques du Paris, Montmartre 3 essentiellement.
Donc le Chat Noir, le Moulin Rouge.
Essentiellement. Donc effectivement déjà il y a une focalisation, alors qu'en réalité sur le plan aujourd'hui, donc il y a le syndicat national, l'ex-syndicat national des cabarets et des music halls qui ont recensé plus de 200 établissements sur tout le territoire. Avec plus des deux tiers, donc la grosse majorité en région. D'accord. Donc en réalité, déjà, le cabaret à Paris est minoritaire par rapport à l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est quand même un point important à souligner, sans compter effectivement toutes les compagnies qui ne sont pas rattachées à un lieu, un établissement, mais qui travaillent énormément, notamment dans la programmation à échelle communale, municipale ou régionale, à l'occasion des festivités, dans les salles des fêtes. Donc effectivement, il y a une ampleur de ce cabaret en région qui est peu étudiée et donc qui mériterait de faire une ethnographie très précise sur quels sont les publics, quelles sont les différences, etc. En tout cas, cette comparaison Paris-Province, ça permet aussi de nuancer, relativiser, questionner cette question du renouveau du cabaret qu'on entend beaucoup aujourd'hui, qui est en fait un renouveau qui est plutôt un regain d'intérêt ou une revalorisation d'un genre qui était peu visible, voire délégitimé. Donc c'est surtout ce focus, cette lumière nouvelle mise sur le cabaret, qui est liée, je pense, à la médiatisation aussi par la télévision avec l'émission Drag Race, qui a permis de populariser en fait une figure du cabaret, donc toute cette culture drag et queer, dont s'est emparé notamment un public assez jeune et qui a mis effectivement la lumière sur cabaret urbain de la capitale parisienne dans une certaine orientation.
Et dans ces journées que vous avez organisées à Reims, on parle justement de province et d'un lieu important en ce moment pour le cabaret, c'est le Manège à Reims, la scène nationale. Il y avait aussi au moins une demi-journée, peut-être un peu plus, je ne sais pas, consacrée à l'institutionnalisation actuelle du cabaret. Alors on sait que le ministère de la Culture est en train de mener un travail sur cette institutionnalisation. Alors je ne vous demande pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, peu importe, mais plutôt qu'en pensent les actrices et acteurs de cabaret avec lesquels vous avez pu travailler lors de ces journées à Reims et qu'est-ce que cette institutionnalisation nous dit aujourd'hui ?
Effectivement, ça c'est très inédit dans l'histoire du cabaret. Cet intérêt, effectivement, de la part des institutions et des politiques publiques d'un établissement qui était plutôt dans le champ du spectacle privé. Donc le cabaret fait l'objet d'une étude par le ministère de la Culture qui a donné lieu au plan cabaret dont découlera donc quelques soutiens, un budget, et puis des soutiens d'aide à la création, aide à la résidence, etc. Donc déjà, il y a le caractère inédit de ce mouvement, et effectivement, qui suscite une certaine ambivalence. D'un côté, il y a, je pense, ce besoin aussi de la profession d'être reconnue, donc il y a une forme de reconnaissance d'une professionnalité et d'une dimension artistique de ce genre. Et donc ça, c'est une chose intéressante, notamment aussi sur le plan de la précarité, parce que c'est un secteur des arts du spectacle qui est quand même extrêmement précaire. Donc effectivement, pouvoir bénéficier d'une salle pour pouvoir répéter, avoir un temps et un peu d'argent pour pouvoir repenser le genre, pour pouvoir peut-être activer la dimension créative aussi du répertoire, avoir un temps pour la création. Ça, c'est une chose qui est ce que j'entends en ce moment avec les artistes actuellement. Et puis, il y a quand même aussi cette crainte, cette méfiance aussi de normaliser ce genre, de perdre effectivement la dimension expérimentale qui est très importante. La possibilité d'inventer et de critiquer aussi. Il y a aussi cette crainte de dénaturer en fait le cabaret et cette dite indiscipline justement en l'institutionnalisant.
Et puis c'est une manière aussi par laquelle le cabaret entre dans le théâtre public alors que c'est plutôt un produit du théâtre privé, j'imagine, cette institutionnalisation.
Alors il y a ce frottement effectivement qui est une longue histoire entre théâtre privé et théâtre public. Et il y a aussi peut-être une des craintes, c'est aussi de voir par exemple dans les espaces des scènes nationales et des espaces publics utiliser le cabaret dans une perspective plus d'animation culturelle à l'occasion de fêtes, etc., pour mettre un peu de couleur, un peu de paillettes, un peu de bois. Et du coup de perdre peut-être à la fois la dimension du potentiel critique que peut avoir le cabaret ou effectivement une proposition artistique. Donc, ce serait peut-être ça aussi auquel il faudrait être vigilant.
Ouais. Alors j'ai déjà parlé deux fois du documentaire de Céline Duchesnay. Donc Céline Duchesnay qui est ici à ma droite, qui est autrice, que vous pouvez entendre parfois certains... comme Rime Battal l'ont bien entendu, puisqu'elle est devenue un personnage d'un de ses livres, et Rime écrit qu'elle écoute, qu'elle a du Céline Duchesnay dans les oreilles, quelque chose de cet ordre-là. Mais donc, vous pouvez l'entendre sur l'émission Mauvais Genre, elle produit l'Almanach de l'étrange, qui est cette série de pastilles de 5 minutes que peut-être écoute Rime, c'est ça. Mais elle est aussi... Maintenant, elle a intégré l'équipe, on en parlera tout à l'heure, de la Barbichette. Et surtout, donc, c'est cette série documentaire dont je parle. Elle a réalisé, elle est l'autrice d'une série documentaire sur le cabaret en 4 épisodes, qu'on vous trouvez très facilement sur toutes les plateformes. Et j'en fais la publicité parce que c'est vraiment, à l'heure actuelle, une des sommes, finalement, les plus complètes qu'on peut entendre sur différentes histoires du cabaret. Donc, j'aurais aimé un peu vous interroger là-dessus, pour commencer, Céline, sur l'origine, le désir que vous avez eu de travailler un peu au long cours, j'imagine, sur cette question du cabaret. Qu'est-ce qui a fait son travail préparatoire? Peut-être les 4 épisodes. Vous pouvez aussi nous parler des 4 épisodes qui donnent 4 thématiques particulières au cabaret. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail-là?
Oui, alors moi je suis avant tout une amatrice de cabaret. C'est comme ça que je suis arrivée au cabaret, tout simplement, par l'intermédiaire de l'émission pour laquelle je travaille, qui s'appelle, je monte un peu le micro parce que je me sens un peu bossue, qui s'appelle Mauvais Genre, où j'ai eu l'habitude de parler du cabaret assez régulièrement et depuis pas mal d'années. Cette série, elle est née, je dirais, avant tout de la complicité avec une personne qui est Laurent Polleret, avec qui j'ai réalisé cette série et qui est la personne
historien, hein.
Non, qui est réalisateur à France Culture et qui est la personne avec qui je travaille. C'est vraiment mon binôme de cœur et de prédilection. Et je dirais que c'est parce que, à travers Mauvais Genre, qui est une émission qui s'intéresse à tout ce qui touche au genre dit mauvais, donc c'est tout ce qui sort, je dirais, un petit peu de la marge. Moi, j'ai pris ma place dans cette émission en défendant essentiellement, au départ, les sexualités, les féminismes. J'ai donc abordé, évidemment, les questions autour du genre aussi. Et puis, tout ce qui sortait de la norme. J'avais une chronique que j'ai tenue pendant 15 ans qui s'appelait L'encyclopédie pratique des mauvais genres, où j'avais l'habitude toutes les semaines d'interviewer une personne qui était sur les chemins de lisière, je dirais, sur les chemins creux, les chemins de passage, avec un univers artistique un petit peu décalé. Et très vite, je suis tombée sur des artistes de cabaret. Il pouvait y avoir des artistes aussi qui étaient liés à la performance ou qui ne se disaient pas artistes de cabaret, mais qui, dans leur état d'esprit, peut-être avaient quelque chose du cabaret, que ce soit l'improvisation, que ce soit cette envie de transgresser aussi, de jouer avec les limites, les frontières. Et c'est comme ça, en tout cas, que le cabaret est arrivé dans mon champ de vision. Et alors la série documentaire, pour le coup, elle est vraiment née d'une amitié avec Jérôme Marin, alias Monsieur K, que j'ai commencé par interviewer, tout simplement. Et c'était un moment où il a créé son cabaret qui s'appelait Le Secret. Et j'étais là le premier soir avec le fameux Laurent Polleret dont je vous ai déjà parlé, et il n'y avait personne au son. Donc Laurent lui a proposé qu'on s'occupe du son, parce qu'il était en train de présenter les numéros et de chanter et de gérer le son, ce qui fait que pendant une saison entière, on s'est occupé du son au cabaret. Et puis après, comme j'avais déjà pas mal interviewé de gens dans ce milieu-là, avec François Angelier qui s'occupe de Mauvais Genre, on a enregistré des cabarets entiers. Donc on a enregistré une fois un secret, on a été au Cirque Électrique aussi, qui est un endroit très cher à mon cœur, où le cabaret est développé depuis des années. On a fait des prises de son un peu partout. Et puis une des dernières expériences de cabaret qu'on ait faites avec Mauvais Genre, c'était de faire des binômes entre des personnes de Mauvais Genre, donc de l'équipe, et des personnes du secret. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés sur scène au secret, qui était ce lieu assez intéressant, qui existe toujours mais où le secret n'existe plus, qui s'appelle Le Truc, qui est au Père Lachaise, où on a fait des binômes. François Angelier était avec Monsieur K, moi je me suis retrouvée à chanter avec mon Dieu, comment est-ce que je peux oublier son nom, ça va me revenir tout de suite. Pardon? Non, pas David Noir, ça c'était Élise qui était avec David Noir. Mais bon, voilà, on a fait des binômes. Et puis un jour, Jérôme Marin m'a dit: mais tu devrais faire une série sur Le Secret. J'avais déjà fait des séries documentaires à France Culture sur les sorcières, sur les champignons et leurs pouvoirs fantastiques. Enfin bon, voilà, je suis une grande adepte du documentaire par ailleurs. Et je me suis dit: mais est-ce qu'il y a de quoi raconter 4 heures, et en fait j'étais sceptique au départ. Et il m'a dit: ah mais viens, il y a un colloque qui se tient avec Camille Paillet, qui est à côté de moi, et viens voir. Et là, tout à coup, je me suis retrouvée face à une histoire que je ne connaissais pas du tout. Il s'avère que moi je m'étais intéressée au cabaret d'Outre-Tombe, par exemple, qui pouvait y avoir à la fin du 19e, avec le cabaret de l'enfer, le cabaret du néant. Donc j'avais plein de petites notions à droite et à gauche, mais pour moi le Chat Noir, je dois dire, c'était des tote bags et des touristes en masse qui étaient du côté du Moulin Rouge, que je trouvais aussi assez ringard. Hein. Je dois dire qu'au départ, je n'avais pas du tout une ouverture d'esprit liée à tout ça. Pour moi, c'était plutôt des produits publicitaires et une forme de folklorisation aussi de lieux qui ne me paraissaient pas
passionnant. Et là, vraiment, je fais mon mea culpa parce que j'ai découvert un monde absolument passionnant et qui faisait totalement écho à tous ces gens que je pouvais suivre depuis des années dans le domaine du cabaret, ou une fois encore, pas que du cabaret, hein, de la performance, d'animations qui pouvaient être parfois même dans des lieux interlopes, tout ce qui sortait de la marge.
D'accord, donc du coup, on a déjà appris des choses sur le passage de l'autre côté, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que maintenant, vous avez une fonction dans la Barbichon, mais on y viendra peut-être tout à l'heure. Mais revenons peut-être sur cette série documentaire, elle est en 4 épisodes. Est-ce que vous pourriez nous les présenter rapidement?
Oui.
J'en fais presque la pub, mais je pense que c'est aussi une manière de thématiser cette histoire-là.
Oui, 4 épisodes, parce que la série documentaire sur France Culture est 4 fois 1 heure. Donc de toute façon, il faut trouver 4 épisodes. Donc j'ai tripatouillé les choses pour faire en sorte que ça puisse tenir en 4 temps. Donc le premier est plutôt consacré à Montmartre et au début du cabaret dit artistique, donc essentiellement focalisé sur le Chat Noir et puis sur le Moulin Rouge, qui se dit aujourd'hui cabaret, alors qu'au 19e, enfin ça c'est plus le chant de Camille, mais je crois pas qu'il y avait ce mot cabaret qui était marqué sur ses ailes. Le deuxième épisode est lié au déshabillage, avec comme point de départ un striptease qui ne s'appelait pas striptease à l'époque, mais plutôt effeuillage ou déshabillage tout simplement, du coucher d'Yvette, et Camille en parlerait beaucoup mieux que moi.
Elle en parle dans cet épisode.
Oui, ouais. Oui. Et puis parce que moi j'étais arrivée par le striptease plutôt par toujours par mauvais genre, mais avec le néo-burlesque et avec notamment une compagnie que j'adorais qui s'appelait Kissis Costra Ball, qui était dans les années 2000 à faire une forme de... Parce que le striptease en tant que tel m'ennuyait beaucoup. J'ai fait des reportages au Stream Fellows où on voyait la même femme immuable se dépatouiller ou se déshabiller devant des hommes en costume cravate, qui est une activité qui ne me fait pas du tout fantasmer. Mais par contre, avec ces femmes-là, il y avait quelque chose qui justement était subversif, parce que justement, on voyait des corps différents, on voyait du grotesque, on n'était pas avec ce féminin que je trouve parfois un peu fatigant, qui est toujours sur un certain nombre de stéréotypes, même si la féminité m'intéresse par ailleurs. Et là, on allait du côté du grotesque, du gore, du burlesque, du drôle, on faisait sortir tout un tas de choses du vagin, et je trouvais ça intéressant dans la représentation du corps, dans la représentation du féminin, dans la représentation aussi du dégoûtant, que je trouve tout à fait intéressant. Donc ça, c'est le deuxième épisode. Le troisième est sur le Berlin de l'entre-deux-guerres, qui est encore aujourd'hui, je crois, source d'inspiration dans les personnages totalement hors du commun qui ont pu traverser le cabaret de cette époque, évidemment avec le destin qu'on connaît, qui est l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Donc tout ceci a une dimension totalement poignante et assez tragique. Et encore plus quand on l'écoute aujourd'hui.
On s'en est parlé au téléphone dernièrement.
Oui, et je
vous encourage vraiment à l'écouter, même si c'est une expérience un peu perturbante, tellement la résonance avec l'époque actuelle est frappante.
Oui. Ouais. Mais le cabaret est un lieu de résistance, donc ça c'est à garder à l'esprit. Et le dernier épisode, c'est sur le genre bien sûr, avec un premier cabaret qui s'appelait La Petite Chaumière, où il y a eu des expériences de travestissement tout à fait intéressantes. Et c'est là où j'ai découvert des choses que je connaissais un petit peu par bribes, mais tout à coup, c'est comme si tout commençait à se relier avec un bal qui s'appelle le Magic City aussi, qui se tenait dans les années 30. Et puis aussi les cabarets lesbiens, parce que quand on parle du genre, on oublie toujours les lesbiennes, je trouve, ou trop souvent les lesbiennes. Et je pense qu'il y a toute une raison à ça. Mais en tout cas, c'était ça que j'avais envie de développer dans ce quatrième épisode qui s'appelle « Au-delà des genres ».
Mais celui sur Berlin rappelle aussi la présence très forte des cabarets lesbiens et des personnalités
avec
lesbiennes
avec des figures extraordinaires. Oui. C'est vraiment ce que j'adore, moi, c'est de me dire qu'on peut être tout à fait en 2025 et en même temps, quand on regarde ces images, trouver des sources d'inspiration qui sont fascinantes, et notamment dans ce Berlin de l'entre-deux-guerres, je pense à une femme par exemple qui s'appelle Valeska Gert, qui avait vraiment mis au point un art de la grimace extraordinaire. Comment grimacer, comment sauter, comment se rouler par terre, comment produire de la joie, de l'excès, du politique. Allez voir du côté de ce Berlin de l'entre-deux-guerres.
Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi en écoutant les différentes émissions. Alors Camille est historienne, donc elle sera peut-être pas d'accord avec ce que je vais dire, mais j'ai eu l'impression qu'un grand nombre de praticiennes et de praticiens du cabaret aujourd'hui en sont aussi des historiennes et des historiens dans ces émissions-là, un certain nombre, y compris d'ailleurs sur la question de l'effeuillage. Hein, c'est Nadège Piton hein, qui parle aussi de cette tradition, un peu comme Camille en parle. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué, cet attachement aussi assez fort d'artistes de cabaret à l'histoire fragmentaire, un peu marginale et secrète qu'ils embarquent avec eux? Allez.
Je ne suis pas sûre. Je dois dire que ça, c'est un petit peu aussi le prisme de la radio. La radio, c'est que vous, par principe, vous allez chercher des gens qui parlent. Autrement, vous êtes un peu embêté. Donc, j'ai eu tendance à chercher des gens qui avaient réfléchi aussi à d'où il venait. Après, moi, ce que j'ai remarqué, mais c'est vraiment mon point de vue à moi, pour le coup, moi, je ne suis absolument pas historienne, mais que, justement, c'était une histoire qui n'était pas si bien connue que ça, et que tout le monde était tout à coup content de savoir d'où il venait, et qu'il y avait un intérêt, parce que j'ai eu beaucoup de retours de gens de cabaret qui avaient écouté la série, qui étaient tellement heureux de savoir d'où il venait, et qui ont appris plein de choses. Voilà, puisque moi, l'idée, c'est pas tant de parler que de faire parler les autres.
Camille, c'est pas un sujet très traité, le cabaret, dans la discipline historique ?
Alors, c'est vrai que je rejoins un petit peu ce que disait Céline sur le besoin, en fait, reconstituer cette histoire-là, en fait, qui est absente. Hein. Il n'y a pas vraiment d'histoire du cabaret. Aujourd'hui, les travaux universitaires ne se sont pas emparés de ce sujet encore, donc elle reste à faire. Donc je pense que c'est lié à ça. Et puis après, il y a des démarches qui sont plus du type d'archéologie théâtrale, de restitution. Donc il y a cette question forte du répertoire et comment dépasser aussi la parodie de textes anciens, de refaire vivre la chanson. C'est ce que j'expliquais un petit peu sur cette question du renouveau, qu'il y a aussi des artistes aujourd'hui qui sont auteurs et qui cherchent aussi à dépasser, renouveler ce cabaret historique. Mais c'est vrai que moi, j'ai senti quand même ce besoin d'histoire, et en tout cas, quand je viens en tant qu'historienne, on me dit « Ah oui, super, alors est-ce qu'on peut parler ?» Enfin, il y a une vraie passion pour cette dimension historique aussi chez certains artistes. On a parlé de Jérôme Marin, effectivement, ouais. il l'inclut même sur scène. Ouais. Certaines... Ouais.
Et puis il avait fait ces trois conférences Covid. C'est marrant de les revoir aujourd'hui, parce que ça nous rappelle une époque aussi où ces formes-là se sont développées, hein, et ces trois conférences sur l'histoire du cabaret. Donc du coup, malgré tout, Céline, maintenant vous êtes voix dans le cabaret de la Barbichette. Qu'est-ce que ça veut dire, alors, être voix?
C'est une sorte de prolongement de ce que je fais à la radio, au final. En effet, Jérôme Marin, donc Monsieur K, m'a proposé de faire la speakerine dans son cabaret. Alors, moi, je me suis dit, pourquoi pas. Je trouve que c'est toujours intéressant. La radio peut être exercée de plein de manières différentes, mais il y a quand même un aspect, en tout cas à mauvais genre, qu'on a toujours cultivé. C'était déjà d'avoir un personnage quelque part. Donc, je sais que François Angelier, très vite, m'a dit, mais surtout à un moment où j'étais la seule femme dans l'émission, des choses ont changé depuis un peu, mais cultive ton personnage. Donc, quelque part, qu'un jour, on propose de faire ça, je ne dis pas que je m'y attendais, mais d'abord je trouve ça très agréable parce que c'est toujours bien de varier les plaisirs. Ma difficulté, c'est la scène, parce que moi je suis un personnage de l'ombre et je suis tout à fait contente d'être planquée derrière un micro et qu'on ne me voit pas. Donc là, par contre, on me voit, ce qui me pose un peu plus de problèmes. Je ne suis pas toujours à l'aise avec mon corps non plus, donc j'aime bien être la femme tronc, finalement, assise dans un coin, à parler sous une perruque. Voilà, je fais ça pour le moment, je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est plutôt joyeux, et c'est surtout travailler avec des gens avec qui j'ai lié des liens assez forts d'amitié. Mais je continue un petit peu à faire la même chose, finalement, parce que je ne suis pas là pour me mettre en scène, je suis là pour passer les plats, pour les présenter, pour trouver les mots jolis, poétiques, pour les présenter, pour faire de l'animation. Donc une forme de prolongement avec ce que je fais déjà.
Et un autre prolongement aussi, je le signale, vous organisez des soirées au Transfo, qui s'appelle Curieux Transfo, et qui intègre aussi le cabaret dans leur programmation. C'est quoi exactement?
Alors ça, pour le coup, c'est vraiment ça correspond à tout ce qui est important pour moi dans ma vie professionnelle et dans ma vie, je dirais même, de citoyenne. Transfo, c'est un lieu de résidence d'urgence d'Emmaüs Solidarité qui se trouve dans le 10e arrondissement. Et j'y avais été il y a un an pour faire l'interview de Jean-Luc Vernat. Et parce qu'à l'intérieur de ce lieu, il y a un centre d'art contemporain avec cette idée que les gens qui sont logés à Emmaüs sont non seulement suivis d'un point de vue juridique, social, mais que la culture leur est aussi proposée. Et moi, j'y étais en leur... parce que j'avais envie, j'ai longtemps travaillé dans l'associatif et j'avais, à France Culture, c'est très bien, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'entre-soi aussi. Il y a quand même de moins en moins de reportages et de plus en plus d'émissions en plateau. Et cette idée d'être coupé un peu du reste de l'humanité est parfois un peu compliqué. Et donc à Transfo, on a créé une rencontre qui est mensuelle, qui s'appelle Curieux Transfo, où une fois par mois j'accueille un invité pour parler d'un sujet, je dirais, de culture générale, avec cette idée que l'espace est un peu comme un cabaret. Il y a plein de petites lumières partout, des petites tables, les résidents d'Emmaüs préparent à manger, donc il y a un buffet, on peut manger, boire, donc il y a vraiment quelque chose qui relève du cabaret. Et il y a une surprise, un artiste ou une artiste de cabaret qui peut arriver, surgir comme ça au moment de l'entretien et qui fait qu'on est non seulement dans le partage du savoir mais aussi dans une forme de merveilleux qui peut surgir à travers un numéro. C'est un événement qui est gratuit, donc qui est ouvert absolument à tous. Et dans la salle, il y a aussi bien des gens d'Emmaüs. Donc les gens d'Emmaüs, ce sont des personnes qui étaient SDF il y a encore peu, beaucoup de personnes sans papier, mais aussi toute parisienne ou tout parisien qui a envie de rentrer pour passer un moment ensemble. Donc il y a, pour moi, mixité sociale qui n'est pas un vain mot pour moi, convivialité aussi qui est tout sauf un vain mot, et puis un vivre ensemble qui à toute petite échelle, parce qu'on est 80 personnes peut-être dans le public, c'est une petite salle, rend plus joyeux et en tout cas plus fort, je trouve.
Donc c'est, Rime, c'est bien cette voix que vous entendez quand vous écrivez de la poésie?
Oui.
Ouais, voilà, vous connaissez donc Rime Battal, vous êtes poétesse, performeuse, romancière, puisque vous êtes pas mal ici au Salon du Livre, pour nous, mais aussi au Salon du Livre, vous êtes dans la littérature silence et dans la littérature brouhaha, pour votre roman qui vient de paraître, qui s'appelle Je me regarderai dans les yeux chez Bayard, et qui est vraiment... super à lire. On ne va pas tellement parler du roman aujourd'hui, vous en parlez dans d'autres endroits. Moi, j'avais envie que vous soyez présente pour nous parler d'autre chose, qui est le bordel de la poésie. On va y revenir, mais si vous voulez bien, vous pouvez commencer par un petit temps de lecture.
Avec plaisir. Je suis obligée de commencer par celui-là. Donc. Sommeil lourd, Marcel Lâche, sans debout. Dans mon oreille, Céline Duchesnay dit... Rare et pointu. Fesses soulevées, dépassement et abondance jusqu'à ce que... Il introduit un étrange outillage, inerte, plastique noir, tourne une manivelle pour le faire tourner. L'impression qu'il poivre une ratatouille. Je zappe allègrement, sans regret. Pour la mise en contexte, il s'agit d'un texte qui est extrait de XXX, mon dernier recueil de poésie en date paru chez le Castor Astral, et qui parle de pornographie en ligne.
Et du Louvre.
Et qui parle aussi de... en fait, je navigue entre les images donc, que je peux voir, qu'on peut voir et qui sont facilement accessibles, d'images pornographiques qu'on peut trouver sur des sites internet, mais aussi je parle également d'œuvres d'art classiques ou contemporaines qui peuvent évoquer aussi quelque chose d'érotique et même de pornographique. À un moment, je décris même dans un de mes poèmes un calvaire qui se trouve en Bretagne, où on voit la Vierge Marie qui vient d'accoucher et elle est allongée sur un oreiller avec ses cheveux qui sont détachés, et on voit ses seins. Alors que voilà, pour
le trouble,
c'est ce qui est assez
vient,
rare de dans l'iconographie religieuse, parce que généralement quand on voit le sein de Marie, elle est en train d'allaiter, ou il y a le bébé Jésus qui est à côté, et là le petit bébé il est même pas là comme prétexte, elle est juste allongée avec les seins à l'air et le drap qui est nonchalamment posé sur son ventre. Je poursuis. Mains fouillent, baudruche, Dessins aussi plastiques que Fontaine-Saint de leur Prouveau donnent à Fontaine-Saint un peu de leur réalité plastique. Cela se passe dans un théâtre, une femme cuir entourée de deux hommes. Les deux hommes ont le crâne rasé, les sexes dehors, dressés comme des bougies, ils larment moins. Entre ses jambes, des oreilles d'éléphant applaudissent la caresse, bafouillent merci. La trompe trompe la mort, elle s'enlise. Cela vaut les virus bravés et le poème qui me fera papisser bien loin. Le monsieur téléverse son homoncule dans l'antre de la mamacita. Je ne sais à quel hypertexte me vouer, ou donner de la tête ou chercher du sens, ma langue fourche. La mamacita est de toute beauté. Toute la charte graphique de la guerre est déclinée dans son maquillage, ses sous-vêtements, ses chaussures à plateforme, dans l'abondance d'huile prodigieuse sur son corps doré, tatoué, les rivières de lubrifiants. Je suis prête. Je ne reculerai devant rien. Tu veux mon cul ? Prends-le. Tu veux mes seins ? Prends-les, je te les donne. Tu veux sentir le jasmin de mon cou ? Très bien. Elle attaque la première. Elle a un plan. Un plan élaboré avec soin depuis le jour où elle a compris le cadre, ses ressources limitées, ses liens, ses possibilités proches de celles d'un hamster. La mamacita persiste à dire « je t'aime ». Et c'est une prouesse avec toutes ses bites garées dans la bouche. Merci.
Merci. Et effectivement, ce qui est passionnant dans ce recueil, que j'ai vraiment trouvé passionnant, sans flagornerie, c'est que de temps en temps, on a ces scènes dont on pourrait croire qu'elles sont des scènes de pornographie. Tout à coup, on s'aperçoit que c'est la description, l'ekphrasis, comme on dit en poétique, d'un tableau classique. C'est assez passionnant. Donc, je vous ai invité, Rim, non seulement pour tous ces recueils, qui sont au nombre de 6 ou 7, je crois, maintenant, et qui font que c'est une œuvre poétique en train de s'écrire, importante dans le champ français. Il y a aussi votre roman. Mais il se trouve qu'il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, nous étions à une même table ronde, je crois, et vous aviez parlé d'une expérience que je ne connaissais pas, et je m'en suis souvenu au moment de préparer ces émissions, c'est l'expérience du bordel de la poésie.
Vous l'avez connue depuis ou toujours pas ?
Ben non, en fait, je l'ai connue grâce à vous, et ça me suffit, en fait, presque.
Mais il faudrait que j'y aille. Non, il faudrait que j'y aille. Il faut la vivre.
Voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui pouvait faire écho à certaines des expériences qu'on peut retrouver dans le cabaret.
Alors, tout à fait, le bordel de la poésie, c'est un cabaret littéraire, de poésie principalement, qui a été inventé par un couple de poètes et poétesses new-yorkais, qui s'ennuyaient dans les lectures classiques qui se passaient en bibliothèque et qui avait envie d'avoir un verre à la main pendant qu'on écoute une lecture. Et donc le concept prend bien à New York. Le Poetry Brothel là-bas a pris une grande ampleur. Les soirées sont très courues, c'est souvent complet et ça coûte très cher. Parce que comme c'est des Américains, eh ben, c'est à l'américaine, c'est le grand show avec du burlesque, avec des trapézistes, avec de la musique live, évidemment. Et donc nous, à Paris, c'est une version un peu plus modeste. C'est une question de moyens. On pourra parler peut-être plus tard du modèle économique bancal. Mais il s'agit bien d'un cabaret donc, qui est en lieu, un endroit festif. Ça se passe souvent dans des bars. Pendant plusieurs années, on l'a organisé dans un bar qui s'appelle Les Écuries et qui vient malheureusement de fermer à raison d'une soirée par mois. Et puis on est passé à une soirée tous les 2 mois parce que c'était un peu lourd à organiser quand même. Pendant ces soirées-là, il y a toujours un DJ qui mixe en live ou quand on l'a pu, des groupes qui jouaient en direct ou en fonction des lieux et des moyens. Quand il y a un piano, on arrive à parfois avoir un pianiste ou une pianiste qui à la fois joue toute la soirée et nous accompagne parfois dans les lectures. Donc c'est un vrai cabaret où on arrive, on est invité en tant que client et cliente, parce qu'on n'appelle pas ça un public, mais c'est les clients et les clientes, on sont encouragés à venir costumer aussi. Et on arrive à 19h, la musique est déjà commencée, et c'est là qu'on aperçoit les créatures du bordel de la poésie qui sont des poètes et des poétesses choisis, sélectionnés chaque soir dans notre pool de poètes et poétesses avec qui on travaille régulièrement. Et à chaque soirée, on est au nombre de 10. On peut leur parler. Les poètes et poétesses sont encouragés à racoler, à aller voir les personnes qui sont dans le public, leur expliquer le concept et les encourager pour se sentir à l'aise, etc., à boire de l'alcool, à commander un verre et à se sentir à l'aise. Et nous sommes évidemment costumés nous-mêmes, donc chaque poète et poétesse est autonome dans sa façon de se costumer, dans ses choix vestimentaires, esthétiques, et dans le personnage qu'elle ou il souhaite incarner. Chaque poète et poétesse a un pseudo, sauf moi qui suis Rime, et parce que je fais mes propres cascades. Et puis on a ce qu'on appelle la présentation générale vers 19h, 19h30. Les poétesses et poètes sont présentés par notre madame, donc, qui anime la soirée et qui est incarnée par Margot Ferreira, qui est aussi la madame, qui est notre madame Galatée, et qui est aussi une des co-fondatrices et co-animatrices de la scène ouverte Mange tes mots.
D'accord.
Donc Madame nous présente, et ensuite il y a notre pimp qui explique le concept. Et le concept, c'est, on lit des extraits, les personnes qui présentent, donc le public, les clients et clientes, identifient avec qui elles souhaitent avoir une lecture. Et moyennant un jeton qui coûte 5€ et qu'on peut acheter auprès de notre chaton du bordel, qui s'appelle Victoria, on peut donc se payer une lecture en tête à tête dans des alcôves qui sont prévues à cet effet avec le ou la poétesse de son choix.
Donc là, on sort un peu des pratiques du cabaret, puisque il y a quand même une distinction entre le bordel et le cabaret. Et donc là, ça commence comme un cabaret, puis c'est imaginaire qui se met en place, quoi.
Aussi, en fait, c'est on joue en fait avec les codes du cabaret dans la partie qui est ouverte, oui, au public, ouais, avec la musique, on boit, ouais, l'érotisme et la sensualité font presque partie qui s'installent presque automatiquement, naturellement, et on peut justement parler et fumer une cigarette avec les artistes qui se produisent. Quand on le pouvait financièrement, on a aussi invité des personnes qui font de l'effeuillage, de la performance, du burlesque, mais tout en prenant soin justement de s'écarter justement des codes de la féminité, comme le disait Céline Duchesne. C'est pas le corps très lisse qui procède à un effeuillage comme on peut le voir dans des para-striptease ou dans des clubs de striptease. C'est vraiment une vraie proposition artistique, et c'est des personnes avec qui on est en lien ou avec qui on a travaillé par ailleurs dans d'autres lieux. Voilà. Et ensuite on a cette partie qui est fermée, mais qui est sanctuarisée plutôt pour les lectures en tête à tête, qui n'est accessible donc que quand on est muni d'un jeton. Et c'est un lieu qui contraste avec le reste, avec la partie publique, parce que c'est un lieu de calme. On entend des poèmes qui sont chuchotés, les lectures se font en tête à tête, parfois à 2 ou 3 ou même à 10 si on veut. Mais par contre, chaque personne doit payer sa place moyennant un jeton.
Et est-ce que c'est une scène poétique qui est distincte des autres? Vous habitez les différentes scènes poétiques, j'ai envie de dire. Vous habitez celle de la performance littéraire, type Centre Pompidou, Maison de la Poésie et autres lieux qui sont habitués à accueillir la performance littéraire. Vous habitez aussi la scène poétique qui est dans le livre, puisque vous publiez des livres. Est-ce que c'est une autre scène poétique? Est-ce qu'il y a des croisements, ou est-ce que c'est des scènes très distinctes?
Alors, il y a des croisements, en effet, mais chaque poète, poétesse avec qui nous travaillons vient aussi d'un autre lieu en lien avec la littérature. il y en a qui pratiquent le slam, qui viennent des scènes slam, et qui pratiquent cette poésie déclamée avec, et participent à des compétitions internationales. Il en est qui viennent du milieu du rap aussi. On a parmi les artistes des comédiens, comédiennes donc, qui font du théâtre, qui travaillent dans le cinéma. On a aussi des, parfois des chanteurs, des chanteuses qui viennent performer parmi nous. Donc c'est vraiment, ça reste quand même toujours des, en lien avec le texte et avec les mots. Mais ce sont c'est des personnes qui ont vraiment des démarches différentes. Et c'est ça aussi qui fait la richesse et la diversité du bordel de la poésie.
Et dans votre travail personnel, celui qui va vers le livre aussi, est-ce que ça a eu un impact de participer au bordel de la poésie? Est-ce que sur votre poésie elle-même, ça a eu un impact?
Alors complètement, je pense que ça a totalement transformé mon rapport à l'écriture même. Bah, déjà, ma façon de dire ma poésie a changé, est devenue plus incarnée. Ensuite, chaque soirée, comme pendant longtemps, j'ai fait partie des best-sellers du bordel de la poésie, et il m'est arrivé de faire jusqu'à 20 lectures le même soir, parfois des mêmes textes. Donc forcément, on se rend compte quels sont les textes qui se prêtent le plus à être dits ou pas. Ça permet aussi de relire ces textes avec des personnes qui sont autrement plus exigeantes que quand on fait partie d'un public. Là, ce sont des personnes qui vous payent directement pour leur faire la lecture, donc qui vous font des retours à chaud, qui vous demandent de redire un vers ou un texte parce que j'ai pas bien compris, qui parfois reviennent aussi parce qu'on a des habitués qui viennent spécialement pour écouter Colette Gabriel ou Rim Batal ou Ferdinand ou Mademoiselle Palmer. Et qui nous demande de lire des textes en particulier, qui nous pose des questions directement sur mais qu'est-ce que tu veux dire par ça, j'ai pas compris ce que tu veux dire dans ce texte, il est un peu opaque. Et donc ça permet aussi de fluidifier son écriture, de la rendre plus accessible quand on se soucie de la réception du public, et puis de les rendre plus agréables à l'oreille, de travailler la musicalité aussi.
Et donc vous n'y participez plus, je crois, c'est fini, mais ça continue, on peut toujours aller au cabaret au bordel de la poésie.
Alors le bordel de la poésie existe toujours. Moi j'ai quitté la team après 8 ans de bons et loyaux services au mois de juin dernier, avec une dernière performance dans un hôtel, dans une auberge qui s'appelle La Roseraie dans le sud de la France, et qui était réellement une ancienne maison close juste à côté d'une caserne, ce qui était assez drôle. Je sais pas si c'est drôle ou pas, mais moi j'ai trouvé ça drôle.
Je pense que c'est assez classique en fait, plutôt.
Exactement, oui, tout à fait. C'est même fait exprès. Et donc, après l'avoir aussi co-dirigé avec les poétesses Laura Lutard et Zoé Bémond de Senneville, ça ne m'empêchera pas éventuellement de performer de nouveau avec le bordel de la poésie, mais c'est juste que je ne participe plus activement à l'organisation des soirées et à la direction.
On vous entendra parler de votre roman quelque part pendant ce Salon du Livre?
Tout à fait. Alors ce soir, c'est de 17 à 19h, c'est la remise du prix Marie-Claire, pour lequel mon livre est finaliste, et je ne sais pas du tout, je ne connais pas l'issue.
D'accord.
Encore, donc voilà, c'est les dernières heures de suspense.
Il n'y a pas de doigts, mais on croise les doigts.
Oui, voilà. On croise fort les doigts, s'il vous plaît. Merci.
On espère.
Et demain, je participe à une rencontre avec Lamia Berada, qui est une romancière marocaine, et ensuite le book club du matin, qui est un journal marocain qui sera animé par Fedwa Misk.
Ok, merci beaucoup. Comme on n'a pas parlé du roman aujourd'hui, on fait quand même signe vers toutes ces rencontres. Et Masha Kills donc, est aussi à la table, elle sera assez présente pendant ce cabaret extra. Maintenant, ce soir à 17h30 et demain aussi à 17h30. Donc c'est une artiste de cabaret qui s'occupe et qui va nous parler aussi du cabaret de nulle part. Mais j'avais envie de vous interroger un peu sur la création de personnages en fait, et du personnage de Masha Kills en particulier. C'est une question, je ne vais pas la poser qu'à vous, mais à toutes les autres artistes de cabaret qui seront à cette table. Donc la question que je me pose, c'est qui est Masha Kills? Et est-ce que c'est un personnage qu'on constitue comme un personnage de roman?
Personnellement, moi, je fais ce qu'on appelle du drag. Donc, je suis drag queen dans la vie. Et le drag, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de présenter comme quelqu'un qui se crée un alter ego ou un personnage pour faire des représentations. Alors que dans mon cas, mon drag, mon personnage, c'est une sorte d'extension de moi-même. Et c'est juste moi avec plus de maquillage, plus de plumes, plus de paillettes. Et j'ose faire des choses que je pense que je n'oserais pas faire sans justement cet apparat-là. Donc voilà, et Masha Kill, c'est aussi un pseudo que j'avais sur les réseaux sociaux avant de faire de la performance et que j'ai décidé de garder parce que ça me va bien, qu'il y a un jeu de mots dedans. Masha Kill en arabe, ça veut dire les problèmes. Mmh. Et on ne sait pas si je les crée ou si je trouve les solutions. Ça, voilà. Mmh. Mais on est là. Et du coup, ça permet aussi aux gens qui me connaissaient avant de pouvoir me reconnaître quand je suis maquillée et se dire, d'accord, c'est quelqu'un que j'ai déjà croisé. Donc il y a ça, et c'est vraiment, même dans mes performances, je ne parle pas forcément de ma vie personnelle, mais c'est toujours des sujets, je dis généralement la vérité dans ce que vous voyez sur scène, c'est des mises en scène soit que j'ai déjà vécues, soit des choses qui me trottent dans la tête, auxquelles je crois réellement. Et j'ajoute toujours une petite touche, un peu de burlesque, des choses drôles, un peu surréalistes. Et j'aime aussi jouer avec le genre, mais particulièrement le genre féminin, et comment en tant que femme, personne n'est femme, on peut s'amuser avec ce genre-là et aller au-delà des carcans, justement, et comment on peut jouer justement même de ces injonctions-là en les poussant au maximum jusqu'au dégoût, comme Céline Duchesne disait plutôt.
Et du coup, quand même une question de plus sur ce personnage. Est-ce qu'on le conçoit un peu comme un personnage de roman, de fiction, qu'on travaille de performance en performance, ou est-ce que vous vous autorisez toutes les libertés? Masha Kill, c'est une enveloppe qui permet plein de choses, presque de transformisme. Voilà, est-ce que c'est un personnage repérable?
Alors oui, j'ai un maquillage signature. J'ai toujours un visage blanc avec beaucoup de blush, un gros eyeliner. C'est-à-dire que si on voit me balader à une soirée, si on me croise à une autre soirée, vous saurez que c'est moi. Mais en effet, le personnage se travaille au fur et à mesure. Une fois qu'on voit les images, les vidéos, on se dit ok, peut-être que cette couleur de cheveux me va mieux que celle-ci, peut-être que ce mouvement je peux le remplacer par celui-là. Mais donc oui, c'est un travail sur le temps, mais je suis pas vraiment dans la transformation, c'est-à-dire que j'ai un peu tout le temps le même personnage dans mes numéros. C'est un peu une sorte de grande femme, femme fatale, très intimidante, et il y a ces côtés de burlesque justement et de moments drôles qui viennent casser cette façade pour rappelez qu'au final, je suis là vraiment pour vous faire rire et vous divertir, et je suis pas intimidante, mais gardez justement ce côté-là qui vient du burlesque, qui venait vraiment de l'idée d'observer une femme très très riche rentrer de soirée et se déshabiller. Donc il y a vraiment cette idée-là de voyeurisme un peu, mais de moi qui vous relance le regard dans les yeux et qui maintient le regard et vous oblige à le baisser un peu. Donc voilà, c'est le jeu.
Donc, tout à l'heure et demain, vous allez proposer une séance de lip-sync littéraire. Qu'est-ce que c'est exactement que le lip-sync littéraire?
Alors, le lip-sync, c'est en deux mots. C'est de l'anglais lip, donc les lèvres, et sync, la synchronisation. Donc, c'est la synchronisation labiale. Plein de gens disent playback, mais ce n'est pas exactement la même chose que le playback. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension de théâtre et d'acting, selon moi, qui est plus poussée dans le lip-sync. Ou comme dans une chorégraphie, par exemple, vous voyez des danseurs faire des mouvements sur des accents de la musique et vous font entendre des pistes sur la piste son que vous n'entendriez pas normalement, bah vous faites la même chose mais avec votre visage. Donc pour moi, le lip-sync, il y a aussi une chorégraphie qui peut l'accompagner, mais c'est vraiment la chorégraphie faciale, chorégraphie de la bouche, beaucoup de grimaces aussi, et pas avoir peur justement de s'en les dire et d'être moche, parce que c'est par là que passent les émotions. Donc voilà, de nos jours, il y a aussi ces injonctions-là de la beauté où il y a des petites nénettes de 18 ans qui mettent de l'antiride, etc., et qui essayent de ne pas trop sourire français ou quoi, pour ne pas se créer des rides trop tôt. Et nous, on est là, c'est notre métier de faire des grimaces un peu. Mmh. Donc, je trouve ça assez marrant.
Mais du coup, vous ne le faites pas uniquement sur des chansons, vous le faites sur des textes aussi.
Oui, donc c'est ça. Donc le lip-sync, généralement, dans la pratique du drag, on a l'habitude de voir des drag queens, des drag kings, des créatures faire des performances sur des musiques ou plusieurs musiques collées les unes aux autres, ce qu'on appelle un mix. Et dans ces performances-là, parfois, il y a des petits moments où les gens rajoutent du texte. Ça peut être des textes enregistrés de leur propre voix, des trucs générés par intelligence artificielle, des extraits de films, de séries, des interviews radio, plein de choses. Et c'est quelque chose que moi, je trouve assez sympa parce que c'est plus dur et j'adore la difficulté. Et par exemple, quand on prend un texte écrit ou parlé, ou même une interview, c'est selon moi qui est le plus difficile, c'est d'apprendre le phrasé justement de la personne pour anticiper justement chaque mot qui va sortir de sa bouche et pouvoir avoir la bonne grimace, le bon moment, le bon regard au public pour appuyer et réinterpréter en fait le texte. Déjà quand il y a quelqu'un qui parle, il ne fait pas forcément très attention à ce à quoi il ressemble, les mouvements qu'il fait, etc. Donc c'est plutôt naturel et ça lui vient comme ça. Et moi, mon travail, c'est justement d'appuyer ces choses-là que la personne auquel ne pense pas. Et tout ce qui est petites hésitations, bégaiements, faut les apprendre aussi, faut les jouer et faut les faire passer au public.
Et ma dernière question pour vous, Macha Kel, c'est vous avez initié un cabaret qui s'appelle le cabaret de nulle part. Pourquoi on initie son propre cabaret? Qu'est-ce que vous cherchez par là? Et quelle est la spécificité du vôtre pour encourager le public et les éditeurs à y venir?
Alors, Lionel, excusez-moi, est-ce que je peux vous proposer une petite solution très intelligente et très artistique, vu qu'on est à la fin du timing de cette émission qui nous passionne? Est-ce que je peux donner ce micro à Macha pour qu'elle vous réponde avec ce micro pendant que nous enlevons ce sublime micro de cette table?
Ben oui, tout à fait.
Vous voulez peut-être conclure pour remercier vos invités et en même temps, après, je laisse le micro à Macha.
Eh bien, je m'exécute. Je vous remercie à toutes les trois et toutes les quatre et je vais laisser quand même Macha Kills répondre à cette question pendant que le plateau est débarrassé et je crois que nous aussi nous nous débarrassons le plancher et la scène. Merci à tout le monde et on écoute Macha quand même.
Très rapidement, le cabaret de nulle part, c'est un projet qui est né au courant d'année 2023 que j'ai monté avec mon ami qui est là dans la salle, Mulov, SS Mulotov sur les réseaux, qui fait des chroniques, des vidéos, et je me suis dit que cette meuf-là, faut la sortir de derrière l'écran et faut l'emmener sur scène. Et vu que j'avais peur d'y aller toute seule, j'ai proposé de venir avec moi. Je la connaissais pas et on est devenus amis à travers ce projet. Et je vous invite du coup à venir voir. Je vais pas vendre la mèche. J'ai pas vraiment de création, de direction artistique. Ça s'appelle le cabaret de nulle part parce qu'on savait pas comment l'appeler. Donc juste venez. Et voilà, la prochaine date, c'est la semaine prochaine, 19 avril, au Bijazi, dans le 19e arrondissement de Paris, 18e, pardon. Et à partir du mois de mai, on déménage, donc soyez au rendez-vous. 12 avenue de la Porte Montmartre. Voilà. Merci à vous.
Merci Macha, merci à tout le monde. Et enjoy la suite. Voilà.
Est-ce que ça vous a plu? Alors on peut les applaudir, ne soyez pas radine et radin en applaudissements. Car on pense que faire de la radio, il suffit juste de s'asseoir et raconter sa vie, mais non, c'est bien plus stressant que tout ça.
R22, tout R22, antenne, tout, radio pour moi.